Et puis là, il tend la main vers lui et puis il dit « Je suis ton père.
Mmh, » Passe-moi la crème.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage. Je suis ton père, quoi. C'est un truc de dingue, quand même.
T'étales bien, hein.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage. Cette année, l'émission de science-fiction de Radio Évasion enfile son plus beau maillot de bain, se met de la crème solaire pour vous proposer une version estivale. Durant les mois de juillet et août, vous aurez le bonheur de retrouver votre émission en mode décontracté. En effet, pour ces deux numéros hors série, j'ai invité quelques amis passionnés de science-fiction avec lesquels je vais tailler le bout de gras dans une sorte de causerie au coin des parasols.
Nous voici au troisième épisode de cette série estivale. On va continuer la liste des questions et vous verrez, parfois les réponses sont très franches, tout en restant cordiales.
Julien Mic, l'ASF, on peut parler de passion. Quel temps elle vous occupe? Est-ce que c'est du plein temps ou est-ce que c'est quelque chose de à la marge?
Alors, plein temps, peut-être pas quand même. Ce n'est pas mon métier à plein temps, ça c'est sûr. Mm-hmm. Après, ça occupe un petit peu de temps dans mon temps pseudo-libre, on va dire ça comme ça. Je lis énormément, de toute façon, beaucoup de livres. Et parmi les livres, un bon deux tiers de SF, on va dire.
D'accord.
Donc voilà, ça occupe un petit peu de temps au niveau de la lecture. Et puis, quand je tombe sur un livre qui est plutôt bien, ce qui arrive assez souvent, j'essaie d'en faire une chronique que je partage donc sur mon blog, sur les carnets dystopiques.
Voilà, ce que j'ai... carnetsdystopiques.fr.
C'est ça, voilà. Donc, de ce point de vue-là, ça prend encore un petit peu plus de temps. Parce que, bon, voilà, il ne suffit pas de le lire, il faut aussi après en rédiger quelque chose. Donc voilà, ça occupe un petit peu de temps. Je ne vais pas dire que c'est envahissant en termes de temps. Ça peut être envahissant en termes d'espace, au bout d'un moment. mais ça, on est tous dans le même cas, je pense. Bah, il y en a qui font des murs tapissés de bandes dessinées. Donc,
qui ils ont très bien.
Moi, c'est des livres et des BD, d'ailleurs, aussi. Mm-hmm. Mais ouais, voilà. C'est envahissant. Bon, ça ira. Ah,
plus ou moins. Ouais. Pas trop. Julien Laoche.
Alors, petit adolescent, oui. C'était très présent. J'étais très science-fiction. Et arrivé à l'âge adulte, de moins en moins, entre le travail, l'écriture, la vie quotidienne, cette passion a pris une place un peu plus raisonnable, disons.
Ouais.
Bien que j'écris de la SF, donc du coup, ça arrive un peu. Mais bon. Voilà. Sinon, oui, c'est pas trop envahissant.
D'accord. Voilà. Okay. David.
Non, je dirais pas non plus que c'est envahissant, mais c'est vrai, c'est une vraie composante de ma vie, quoi. C'est une thématique qui m'attire beaucoup dès que je vais voir un film de SF, une BD SF, des romans. Alors effectivement, au niveau des romans, c'est vraiment là-dessus que je suis le plus centré. Mais bon, moi, je suis vraiment intéressé par l'imaginaire au sens large.
D'accord.
Quoi. C'est vraiment ça qui me touche, quoi. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez particulier avec la science-fiction, c'est qu'aujourd'hui, à mon sens, elle a vraiment infusé la société à tel point qu'un auteur comme Enki Bilal, donc qui expose à Landerneau en ce moment, il déclare que la science-fiction n'existe plus, parce que la science-fiction, elle est déjà là. C'est un peu particulier comme point de vue, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui.
Moi non plus.
Mais... je veux dire que c'est quelque chose qui est devenu très présent, mais qu'on nomme peu, en tout cas, dans les médias généralistes.
D'accord.
Moi, j'écoute beaucoup France Inter, par exemple, et on ne parlera jamais ou très rarement de science-fiction, mais si quelque chose se rattache à la science-fiction, c'est de l'anticipation.
Moi, j'écoute Radio Évasion, et je te garantis qu'on parle de science-fiction.
Mais je crois que la science-fiction recule au fur et à mesure que la science avance. Ce qui était la science-fiction devient de la science.
Ah oui, la science-fiction d'avant et notre réalité.
Il y a de moins en moins de science-fiction.
Au fur et à mesure que le progrès se développe,
la science-fiction recule, diminue.
La SF finit par se concrétiser.
sans compter les événements extérieurs comme la pandémie, etc. Enfin, bon, voilà.
Oui.
Oui. Guillaume.
Oui, bah, en tant que président d'une association de SF, oui, c'est plutôt envahissant, surtout quand tu as décidé de publier un fanzine, que j'écris en grande majorité les textes, qu'ensuite ils sont envoyés en fait, à un autre adhérent à Brest qui les corrige, et qu'ensuite je les envoie à David ici présent qui lui les met en page, qui me les envoie par la poste, ou là, comme aujourd'hui, on profite de se retrouver pour recevoir en fait le nouveau fanzine que je vais donc assembler chez moi et puis vous envoyer avec les enveloppes décorées.
Oui, donc, très joliment décorées.
Merci. Donc, c'est une idée de David hein, que j'ai repris.
Oui.
Parce qu'il m'avait commencé à m'envoyer des courriers comme ça et je trouvais que c'était très sympa et que c'était. Que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire profiter les autres. Donc, le fanzine m'a plus les animations en fait, au niveau de l'association, les sorties en les stands de convention en fait, pour présenter à l'association. Donc, c'est sûr, avec la période Covid, ça a mis un coup de frein, mais là, ça commence à redémarrer gentiment. Et puis, bah, tant qu'à faire, je me suis dit, on va créer un site internet avec une partie blog, donc qu'il faut alimenter. Et puis, bah, y a aussi ce salon de la littérature de l'imaginaire qui est en vraie préparation actuellement, donc qui pareil, il y aura des tables rondes à préparer, des présentations des auteurs, tout ça. Oui, donc on met tout ça bout à bout, ça fait, oui, c'est, en ce qui me concerne, oui, c'est envahissant, là. Oui. Mais bon, ça va, ça suit.
Ça reste un plaisir encore.
Oui, bien sûr, c'est vraiment toujours un plaisir, une vraie passion qui me suit du plus loin que je m'en souvienne. Et je suis vraiment très heureux en fait, du développement de l'association, de tous vous avoir rencontrés, et qu'il y ait vraiment une belle dynamique et des beaux projets en fait, qui se concrétisent.
Une petite note en passant pour les auditeurs. Tous les membres présents dans le studio sont des membres de l'association La 29e Dimension.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Ce n'est pas du copinage, hein, c'est juste une affinité des...
Non, ben, c'est une belle idée que tu as eue de nous réunir. Parce qu'avec les confinements, c'était compliqué de se retrouver. Quoi, donc.
Yannick.
Ça dépend avec qui. Je sais qu'avec ma femme, je ne parle pas de SF, c'est pas la peine.
Ah
dès que je vais chez Guillaume, je me lâche.
Je confirme.
Non, ça dépend avec qui. Bon, après, c'est vrai que moi, la SF, ça m'a toujours suivi, en fait, même sans le savoir. Je vous ai dit, mon déclic, c'était en 99, mais déjà, William Gibson, même Philip K. Dick, Blade Runner, quand j'ai vu les voitures, je fais, c'est quoi ce film, quoi? Non, c'est une grosse passion qui pourrait devenir assez envahissante pour certaines personnes.
Ouais.
Je me soigne, hein, vous inquiétez pas.
Ouais. Un peu de compartimentage, quand même, est nécessaire.
Quoi. Ouais, je pense que... Il faut, ouais.
Assumez-vous cette passion, Julien Mick.
C'est compliqué de répondre à ça parce que c'est presque dommage qu'on pose la question en fait. C'est-à-dire que c'est
volontairement provocateur.
Ouais. Et c'est très. Je pense que c'est très très français d'avoir cette idée que finalement il faut assumer la science-fiction parce que ce serait un style, un sous-style, un sous-genre, une sous-qualité littéraire ou cinématographique destinée. Peut-être à un public jeune, des choses comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui a toujours été présent, j'ai l'impression, en France, et qu'il est encore aujourd'hui. Un petit peu moins avec une certaine partie de la science-fiction dystopique. Les dystopies, aujourd'hui, commencent à avoir droit de cité dans les revues littéraires. Ils ont même des prix littéraires, des choses comme ça. Autre que les prix de science-fiction. Voilà. Mais à part ce style dystopique qui est vraiment très particulier, hein, qui est pas du tout représentatif de l'ensemble de la science-fiction, effectivement, on a encore tendance à considérer que c'est pas au niveau littéraire des grands classiques.
La dystopie est appréciée en France parce que justement il n'y a pas de ce qu'on pourrait appeler en fait les clichés de la SF comme les aliens ou les robots, ce genre de choses qui font tout en fait la force de la SF, son essence. Mais en France c'est la dystopie en fait est appréciée parce qu'ils ont l'impression en fait de pas retrouver cela dans ces romans et donc que pour eux c'est quelque chose qui se rapproche un peu d'une littérature blanche qui serait plausible en fait serait quelque chose en fait que pas si lointain en fait pour eux et sérieux.
Oui, c'est ce que moi j'appelle la dystopie à court terme en fait. C'est-à-dire que pareil, dans les dystopies, tu as des choses très différentes. Tu peux avoir quelque chose qui va se passer dans 200 ou 300 ans, comme tu peux avoir quelque chose qui se passe la semaine prochaine, quoi, à peu de choses près. Oui. Effectivement, les dystopies à court terme, elles parlent de la société d'aujourd'hui, avec une petite déviance mineure, mais qui a des effets majeurs. En gros, c'est ça, les dystopies dont on entend parler aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Alors il peut y avoir là-dessus un ajout de quelques phénomènes un peu bizarres, on peut parler des furtifs de Damasio, c'est une dystopie à court terme, c'est quelque chose qui est compréhensible par tout le monde, malgré tout il y a des choses d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec la science-fiction, il y a un peu d'imaginaire, comment dire, presque du féerique.
Oui. Voilà. D'où le titre du roman en fait.
Ouais. Et du coup, effectivement, sur ces dystopies-là, oui, il y a une appropriation peut-être plus facile par l'ensemble des lecteurs, parce qu'on est presque pas dans la SF. Mais le problème, parce que pour moi, c'est quand même un problème, il vient plus de la manière dont tout ça est médiatisé. C'est-à-dire que, au niveau des critiques littéraires, finalement, on va quand même avoir moins de place qui est accordée à la science-fiction ou un espèce d'a priori qui me semble toujours très, très prédominant, quoi,
prégnant,
dans la littérature française. C'est pas du tout le cas dans le monde anglo-saxon.
Non,
c'est presque l'inverse, quoi.
C'est vraiment accepté. C'est pour eux, ça fait c'est leur ordinaire, quoi.
Donc du coup, pour répondre à la question, oui, j'assume pleinement ma passion pour la science-fiction. Et il n'y a pas besoin d'assumer en fait. On aime. Et puis, voilà. Oui, je comprends bien le sens de la question. Oui. Mais, effectivement, c'est ça. Quoi. C'est très très français, je pense, cette idée qu'il faut assumer.
Oui.
La SF.
J'ai l'impression aussi que c'est très français, ce côté littérature du réel. Dès qu'on part un peu dans l'imaginaire... Ça sort un peu des clous, j'ai l'impression que c'est pas bien vu, quoi.
Alors, je me souviens, par exemple, il doit y avoir, je ne sais pas, peut-être 20 ans, quelque chose comme ça, je ne sais pas, une vingtaine d'années, avant que, on parlait du Seigneur des Anneaux, dans la dernière émission, avant que le Seigneur des Anneaux soit porté au cinéma, il avait eu un énorme succès dans le monde anglo-saxon essentiellement, un peu moins en France, même s'il existait et qu'il était déjà bien présent. Et je me souviens d'avoir lu une critique à cette époque-là, où le Seigneur des Anneaux n'était pas encore très très connu en France, de quelqu'un qui disait « c'est vraiment un mauvais bouquin, quoi. C'est une histoire pour les enfants, c'est pas crédible du tout, etc. » Voilà. C'est exactement le petit problème, quoi. Après, évidemment, ça a changé, depuis Seigneur des Anneaux.
C'est plus à la mode, on va dire.
Mais voilà.
David ?
Oui, en fait, par rapport à ce que tu disais en parlant de littérature du réel, moi, je m'inscris en faux. Parce qu'en fait, dans la littérature qu'on va appeler la littérature blanche, Gallimard, etc., en fait, on a un phénomène qu'on appelle l'illusion réaliste.
D'accord.
On a une illusion de réalité parce que ce soit de la science-fiction, du policier, ce que tu veux, c'est pas un documentaire, c'est une fiction.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Et c'est mais
c'est bien de.
Je le vois comme ça et ça me semble extrêmement important parce que le nombre de fois où des gens ont pu m'abréger science-fiction en fiction, non. Non.
Ah non, ça
n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir, quoi. La fiction, c'est autre chose. La fiction, c'est un récit qui porte parfois des éléments réalistes, parfois non, mais c'est pas ça, c'est une illusion réaliste. On tente de reproduire le réel, mais ça n'est pas le réel.
D'accord. Merci pour la précision. Julien Laoche.
Alors, la question, est-ce que j'assume cette passion, sachant que je suis un adulte ?
Oui, oui. Ce que j'ai précisé dans le questionnaire que j'ai envoyé avant l'émission, c'est de savoir qu'on est tous à peu près à la quarantaine. Voilà.
Encore.
Presque. Presque. Voilà. Est-ce que ça paraît normal pour un adulte d'aimer la science-fiction ?
Eh bien, oui.
Merci.
J'assume mon côté geek. Mm-hmm. Et pour moi, la vraie science-fiction amène à la réflexion et pas seulement au divertissement. Mm-hmm. Pour moi, la vraie science-fiction, c'est amener vraiment une réflexion sur, sur la société, ouais. sur les dangers. Voilà. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Oh, c'est de qui?
C'est de... ça y est, j'ai oublié.
Lovecraft.
Non, non.
On a une souffleuse en studio.
Voilà, Rabelais.
Merci. Voilà. Merci Florence.
Merci Florence.
Florence qui est restée là, justement, je vais lui poser la question à elle aussi. En tant que caution féminine, on va dire, avec des énormes guillemets, c'est savoir est-ce qu'il y a une différence entre ce que ce sera un homme qui assume son côté passionné de science-fiction ou une femme? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de handicap, avec d'énormes guillemets encore, par rapport à ça?
Je dirais que c'est une question qui est difficile. Enfin, pour moi, c'est difficile de répondre, ouais. en fait. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait une littérature pour les filles, une littérature pour les garçons. On se retrouve un petit peu comme avec les jouets, quoi.
D'accord.
Donc, au fond, non, dans le sens où on est tous allés à l'école, on a tous assisté à des cours de français, on a tous assisté à des cours de littérature, donc on a tous les mêmes outils, en fait, pour pouvoir comprendre n'importe quel média.
Mais...
Donc, au fond, on se pose tous, en fait, ces questions, je dirais, existentielles, auxquelles, justement, les auteurs de science-fiction cherchent à répondre. Donc, finalement, il n'y a pas forcément une affaire d'être un homme ou d'être une femme. Après, c'est plus qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie, quelles sont les questions qu'on se pose, et finalement, de trouver les réponses, ou alors... de nouvelles interrogations en fait dans la dans la littérature, dans le cinéma, dans la bande dessinée ou dans les séries télévisées en fait qu'on va consulter.
Très bien, merci pour ta réponse. David.
Moi j'assume complètement et définitivement. De toute façon, je suis non seulement fan de science-fiction, mais aussi de musique métal. Je m'habille avec des t-shirts métal, des têtes de mort, tout ce que vous voulez. Donc, j'ai absolument aucun problème à assumer ça. Mais par contre, le fait que les grands médias, eux, ne l'assument pas, m'agace.
J'ai bien compris.
À titre personnel, ouais, c'est quelque chose que j'assume complètement. Et on peut en parler aussi de manière érudite, quoi. D'ailleurs, à l'Université de Brest, on a une chercheuse qui travaille sur la science-fiction, les transformations du corps, ce genre de choses. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, a pénétré le milieu littéraire. Pour les gens que ça peut intéresser, on peut même trouver un MOOC sur la plateforme française qui s'appelle FUN. Sur la science-fiction.
D'accord.
Et un autre sur la fantasy. Donc, c'est des MOOC qui sont réalisés par Anne Besson. Oui. Et je vous les recommande.
Ils sont très bien.
Ouais. Je mettrai le lien dans la description de l'article sur radioévasion.net. Guillaume, je vous pose la question pour principe.
Mais oui, je pense que... comme majorité, comme tous mes camarades, bien sûr que j'assume cette passion, même si au début c'était un peu compliqué. C'est vrai que j'avais un peu du mal à. Je trouvais que prononcer le mot science-fiction, pour moi, c'était comme un gros mot, en fait, au début. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fini vraiment par me plonger tellement, en fait, dans ces univers à la fois riches et variés que j'ai fini par assumer totalement comme tout dans ma vie. Donc,
Le terme science-fiction est tellement devenu péjoratif en France que quand on parle quelque chose de pas réaliste, on dit c'est de la science-fiction.
Oui.
Quand on dit quelque chose qui n'est pas réel. Quoi.
Oui, c'est vrai que c'est une expression qui est un peu idiote, enfin, qui rabaisse en fait le genre, quoi. Mais ça, c'est je pense que c'est typique, en fait, de la France, quoi, tout simplement.
Je vois que Florence voudrait intervenir.
Je voulais juste ajouter justement quelque chose par rapport au fait justement de la science-fiction écartée peut-être par les médias, mais je tiens quand même à dire une chose, c'est que dans les écoles, je vois aussi dans les collèges ou dans les lycées. Je vous ai pris l'exemple d'Orwell. Moi, j'ai découvert Orwell en classe.
Oui.
Donc, comme quoi, c'est des textes, justement, qui sont devenus classiques. Je pense à Barjavel aussi. Ah oui. Moi, j'ai ma sœur, par exemple, qui est très, très scientifique. Elle a découvert, en fait, Barjavel en classe, en français. Hein, elle a juste lu un extrait de La Nuit des Temps et elle a voulu lire le livre et elle s'en est passionnée. Et finalement, à l'école aussi, c'est une ouverture que font justement les enseignants en français. On peut aussi l'aborder en histoire dans le cadre de l'histoire des arts. Et en tout cas, maintenant, cette littérature ou même ce cinéma entre aussi dans les classes. Et du coup, sur les générations futures, je pense qu'à terme, c'est aussi un point de vue qui est en train de changer et d'évoluer. Sachant que maintenant, nous, finalement, quarantenaires, on montre à nos propres enfants ces fameux films qui nous ont plu. Je peux citer Jurassic Park, qui nous ont beaucoup plu. Et du coup, on leur transmet. Et moi, mon fils m'a dit « Le Seigneur des Anneaux, c'est mon film préféré ». Et il a pleuré à la fin et c'était incroyable. Quoi. Et ça l'a énormément marqué. Mmh. Donc, il y a aussi, je pense, la génération à venir qui, elle, est aussi en train, finalement, d'intégrer ces codes et cette littérature au sens large. Parce qu'au fond, le cinéma est aussi une littérature, hein, puisqu'elle est scénarisée. Mmh. Et, voilà.
Merci pour cette intervention. Oui, Yannick.
Évidemment, j'assume.
Y a sauf pas avec madame, j'ai cru comprendre.
Oui, bah, madame n'aime pas trop. Si, je vais faire un peu aimer la science-fiction, mais, mais elle, c'est plutôt Hunger Games, donc ça se discute. Non, mais je vois pas pourquoi, comme ont dit mes camarades, c'est typiquement français. C'est fini, les... Enfin, moi, je sais que notre génération, nos parents avant, ils allaient dans les bars, tout comme ça. C'est pas mon truc, quoi. Je préfère lire un roman ou voir un film, quoi.
Oui.
Et je sais pas, le mot science-fiction, je trouve beau, moi. Science-fiction, ça me plaît. SF, je trouve ça classe.
Mais sci-fi, c'est moche.
C'est pas faux.
Oui. Est-ce que vous auriez un film, un livre, une série ou autre chose, même une chaîne YouTube, à recommander, Julien Amic?
C'est toujours très compliqué de recommander à... quelque chose.
Après, on met un peu
ses
tripes sur la table, quoi.
Ou alors on essaye de trouver quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, mais j'avoue que c'est pas forcément évident. Alors, plusieurs recommandations peut-être, en tout cas des choses que moi j'ai beaucoup aimées et qui sont pour certaines très connues ou d'autres moins. En termes de films, c'est Invasion Los Angeles pour moi.
Ah oui.
Voilà.
John Carpenter.
John Carpenter, tout à fait. Voilà, de la SF subversive. Voilà, autant que c'est possible. Avec c'est pour moi c'est ça la SF, c'est-à-dire qu'on a c'est un divertissement avant tout, mais quand même il n'y a pas besoin de creuser très loin pour voir que c'est une grosse critique de la société
ultra-capitaliste
américaine et autres. Donc voilà, ça c'est un film qu'il faut absolument avoir vu. Il y en a quelques-uns. Il y a Blade Runner qui est la référence absolue. On parle beaucoup de Star Wars aussi. Bon, admettons.
admettons, oui. Bien d'accord.
Mais voilà, Invasion Los Angeles, c'est pour moi une des très très grandes références du cinéma de science-fiction. Quoi. Voilà, ça c'est pour le cinéma. J'ai le droit de citer d'autres.
On développe. Ah,
ok. Alors sur un livre maintenant, un livre que j'ai beaucoup aimé et qui est quasiment introuvable aujourd'hui, ça s'appelle Eden de Stanislas Lem, écrivain polonais. Hein, qui a écrit Solaris, qui a d'ailleurs été porté à l'écran
deux fois.
Avec Georges Clooney pour le dernier.
Oui.
Hein. Ouais. Pas si mauvais d'ailleurs, mais assez éloigné du bouquin quand même.
Oui, je pense. J'ai pas encore lu.
Ah ben, Lem, il est très connu pour avoir écrit Solaris et puis un peu moins pour la Sibériade. Voilà. Mais il y a un bouquin qui est complètement inconnu, en tout cas qui a été traduit en français, mais qui n'a pas été réédité depuis de très très nombreuses années, qui s'appelle Eden. Et alors, c'est très exactement représentatif de ce que Stanislas Lem est capable d'écrire, c'est-à-dire d'imaginer des sociétés non humaines, extraterrestres, là, en l'occurrence sur la planète Eden, et qui n'ont strictement rien à voir avec tout ce qu'on pourrait concevoir de manière rationnelle. Voilà, c'est ça qu'il sait faire, c'est ce qu'on peut voir dans le roman Solaris, qui est difficile à comprendre dans le film d'ailleurs, mais qu'on voit très bien dans le roman. Hein. C'est une forme d'intelligence assez incompréhensible, mm-hmm. si on peut parler d'intelligence. Et dans Eden, c'est un petit peu ça. D'accord. C'est voilà, un astronaute, on va dire, qui se retrouve sur une planète sur laquelle a priori il n'y a rien.
D'accord.
Sauf qu'il y a quand même des traces de quelque chose, ouais. et puis ils finissent par découvrir une société, mais à laquelle ils ne comprennent strictement rien. Et mais c'est incroyable la manière dont c'est raconté. Et moi, je l'ai lu plusieurs fois, ce livre. Et je ne sais pas, c'est un vrai ovni. Hein, donc, pour le coup, c'est parfait pour de la SF. Et voilà, ça, c'est quelque chose, je pense. Si vous arrivez à le trouver, parce qu'il faut le trouver d'occasion. Faut le trouver, voilà. D'occasion, je crois que c'est un vieux folio SF que je dois avoir chez
d'accord.
moi. Si vous le trouvez, achetez-le et lisez-le parce que ça vaut vraiment le coup. Ça d'accord. fait partie de la SF que j'appelle vintage, c'est-à-dire que ça a un petit peu vieilli quelque part, mais pas en mal, quoi.
Ouais.
Voilà. Donc ça se lit aujourd'hui. Ça peut paraître un peu dépassé par certains aspects, mais ça, il y a énormément de bouquins qui le sont. Hein. C'est oui. vrai, on va parler d'autres choses, de grands classiques qui sont peut-être de la SF aussi. Si on parle de 20 milieux sous les mers, par exemple, c'est complètement dépassé.
Ah oui.
C'est un sous-marin à pile quand même, hein, le Nautilus. Donc voilà, mais ça se lit quand même. Donc ben là, c'est un petit peu la même chose. Mais ça vaut vraiment le coup, au moins pour connaître Stanislas Lem aussi. Voilà.
Très bien.
Je peux m'arrêter là.
Et après, on va être pris par le temps, donc je pense que...
Allez, je m'arrête là.
Julien Laoche.
Alors, film, la trilogie Retour vers le futur.
Oui, ah. j'ai cru comprendre.
voilà. En série, la série Stargate SG-1. Où pour moi, il y a tous les thèmes de la SF qui ont été traités dans les 10 saisons.
Oui, c'est vrai qu'ils ont fait un peu le tour. Hein,
ouais. Ouais, voilà, même des choses que je n'ai jamais entendues avant ou jamais vues avant. voilà. Et puis, sinon, en littérature, tous les livres de Bernard Werber.
Voilà. Et c'est déjà la fin du 3e épisode estival. Vous voulez connaître la suite des recommandations de nos invités ? Pour cela, il faudra être présent au prochain numéro qui arrivera très rapidement. Eh oui, je fais du teasing aussi.